Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce deuxième podcast. Je suis ravie d'accueillir Michèle Rivasi, avec laquelle nous allons parler sans langue de bois de la stratégie vaccinale et de tout ce qui se passe au niveau du Parlement européen concernant ces fameux vaccins. Ça pose quand même beaucoup de questions. Et puis, avec ce qu'on vient d'avoir là au Parlement, la règle de procédure d'urgence, bon, je trouve ça un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de débats. On nous fait passer des trucs comme ça. Et toi, enfin, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais en tout cas, si tu as un avis sur ce fameux certificat sanitaire vert, moi, je trouve que ça pose un peu de questions. Donc, si ça te dit, on peut en parler. Puis après, parler de la transparence des vaccins. Et puis surtout, même si on est toutes les deux des soignantes, on a quand même des questions sur les responsabilités
Ouais.
d'éventuels effets secondaires à court, moyen et long terme. Je pense que
Ouais.
la transparence des contrats, on en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Bon, de toute façon, ils ont décidé que les contrats, ils seraient transparents, comme je dirais, un bout de bois, n'est-ce pas? Donc, si ça te dit, voilà, c'est pour parler un peu de l'actu et puis parler surtout aussi, lancer des alertes. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup entendu sur les responsabilités en cas d'effet secondaire.
Oui,
Si toi, ça te
oui.
dit.
Oui, mais moi, tout me dit. Bon, alors, écoute, on va attaquer peut-être d'abord la transparence des contrats, parce que je trouve que ça, c'est vraiment scandaleux à plusieurs titres. Si tu veux, d'abord, je trouve vraiment ça scandaleux, parce que, bon, c'est un peu des lieux communs maintenant, mais de nous avoir fait voter 2,1 milliards d'euros, ça, c'était en 2020. Qu'ensuite, on a demandé la transparence des contrats. Et il y avait Galina, hein, qui est à la DG Santé, qui nous a dit, oui, on ne peut pas tant que les contrats ne sont pas négociés. Là, on en a quatre qui ont obtenu l'autorisation et six qui ont été négociés. Et après, en fait, on nous a donné AstraZeneca, on nous a donné
CureVac.
Sanofi, on nous a donné CureVac. Et Johnson & Johnson en salle de lecture. Alors moi, je suis allée au début pour CureVac. Et puis après, tu vois, moi, tant qu'ils ne sont pas en ligne, je dis, on n'y va plus. Parce que d'abord, ils sont biffés. Bon. Alors après, deuxième chose que je voulais te dire, c'est que je suis à la commission contrôle budgétaire. Donc, j'ai interpellé encore, c'était hier ou avant-hier, Galina. Qui a dû se faire remonter les bretelles parce qu'avant, tu sais, elle était très sûre d'elle et tout, alors que maintenant, tu vois, elle fait profil bas. Parce que je lui ai dit, vous savez, ce que vous faites, quand on est au contrôle budgétaire, on doit contrôler l'exécutif, et là, vous ne nous avez même pas donné la somme qu'on a attribuée à chaque labo. Donc, en fait, je lui ai dit, ça peut être du détournement d'argent public. On ne sait pas si. À CureVac, à Sanofi, combien vous leur avez donné et ce qu'ils ont fait de l'argent. Parce que regarde, AstraZeneca, là, qu'on critique beaucoup, mais si on lui a donné 224 millions, là, il parle de 224 millions, mais on n'a pas confirmation, est-ce que cet argent a été mis dans la recherche et développement, dans la construction d'usines de production? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet argent, tu
Et
vois?
là,
Bon.
il n'y aura pas de contrôle de la commission ni de chez vous?
Eh bien, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas les sommes.
OK.
Alors, il faut que tu saches que quand j'ai vu ça, moi, j'ai fait une lettre à la commission contrôle budgétaire, budget et envie pour leur dire il faut porter plainte. Il
D'accord.
faut porter plainte contre la commission via les trois commissions, budget, contrôle budgétaire et envie. Et là-dessus, eh bien, les rapporteurs n'ont pas voulu.
Ah bon?
Les rapporteurs à la commission contre, ouais, ils n'ont pas voulu porter plainte, alors que c'est un dysfonctionnement interne du Parlement.
D'accord.
Parce que si tu n'as pas les sommes, tu n'as pas les moyens de contrôler l'exécutif. Et là, elle m'a répondu, oui, je sais que vous insistez. Bon, écoutez, bon, on va tout faire pour que les contrats soient accessibles, même s'ils sont biffés. On va vous donner les sommes attribuées à chaque labo. Mais ça, me l'avait déjà dit, mais on ne l'avait toujours pas donné. Alors, je vais voir la semaine prochaine si elle me donne au moins toi, les sommes qui ont été attribuées à chaque labo.
Est-ce qu'ils avaient mis des garanties sur les livraisons et tout ça avec les sommes qu'ils leur ont données? Parce que quand même, ça paraît très léger. Ils ont donné de l'argent public. Et derrière, on voit bien qu'il y a, il y a des dysfonctionnements dans les livraisons. Il y a des dysfonctionnements un peu partout. Pfizer qui nous dit très peu de temps après, il y a un problème sur sa chaîne, machin. Ils ont mis des conditions au labo ou pas?
Alors, écoute, elle nous avait donné les doses. Mais j'ai dit, mais je m'en fous, moi, des doses, puisque de toute façon, je n'ai même pas le prix. On n'a que le prix officieux, tu sais, quand
la ministre belge
au budget nous avait donné en tweet les prix. Mais on n'a pas les sommes. Donc, bon, ça, c'est un premier point. Après, les conditions commerciales. Alors, on a eu accès, nous, au contrat d'AstraZeneca en complet. Tu vois, ce n'était pas biffé. Parce qu'on l'a eu par, je ne sais plus si c'est la Grèce ou un autre pays, mais enfin, bon, on l'a eu en entier. Et là, en fait, il y a une clause qui indique qu'ils feront les meilleurs efforts pour faire en sorte à ce que les doses soient tu vois, attribuées dans
c'est
un
vague,
calendrier.
C'est vague, parce qu'il n'y a pas de temporalité, mine de rien.
Ouais. Et puis surtout, il n'y a pas de sanction.
D'accord.
Il n'y a pas de sanction. Et alors après, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ils ont tout fait pour pas qu'on attaque en justice. Parce que, tu sais, à un moment, les États membres voulaient attaquer en justice, mais ils ont dit non, ça ne sert à rien. Ça ne nous fera pas revenir les doses et tout. Mais je crois que, en fait, les États et la Commission ne peuvent même pas attaquer en justice les labos s'il n'y a pas la délivrance des doses à temps.
Mais les termes, comme tu en parles, ils sont trop vagues pour pouvoir les attaquer. Ils feront tout leur possible pour le faire. Mais il suffit de trouver un incident, même inventer un incident, et ils sont inattaquables, ces gens.
Ouais. Donc, tu vois, on ne peut même pas les attaquer en justice. Alors, tu me diras, ça ne résoudra pas, c'est ce que disait Breton, ça ne résoudra pas le fait que on n'a pas les doses. Mais enfin, ça montre que, je pense que, si tu veux, sur le retard, la commission a mal négocié. Elle a fait tellement confiance aux labos, ils étaient tellement contents que les labos leur sortent un vaccin, qu'en fait, ils ont mal négocié les clauses commerciales.
C'est aller trop
et
vite.
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ils n'ont que des trucs détournés. Tu vois, c'est par exemple la clause du contrôle d'exportation. Tu vois, ils peuvent jouer là-dessus. Il y a une autre clause aussi dans le cadre du traité de l'Union européenne sur le fait qu'ils peuvent saisir les stocks ou ils peuvent, si jamais ce n'est pas respecté le calendrier, ils peuvent produire eux-mêmes au niveau de l'Europe.
D'accord.
Mais sauf que c'est vague, parce que produire eux-mêmes, ça voudrait dire qu'ils font sauter le brevet. Ou alors, Charles Michel, il parlait de saisir les stocks. Tu vois, si on ne te fait pas respecter le calendrier, tu peux saisir les stocks dans les usines.
Oui, mais s'il y a aussi. Mais c'est une possibilité, mais ils peuvent très bien s'arranger pour qu'il n'y ait pas vraiment de stock. Ok, et puis
qu'il
n'y ait pas grand-chose à saisir.
En Italie.
Oui, les 38,
alors,
les 38 millions.
Oui, mais tu sais que c'est compliqué cette histoire. Parce que je t'explique cette histoire. Il y avait les Pays-Bas, notamment c'est à Alix, ça s'appelle. Ils fabriquent les adénovirus. C'est pour AstraZeneca, ça. Mais ils n'ont pas la certification parce qu'ils n'ont pas envoyé les données à l'EMA. Parce que c'est l'EMA qui fait la certification de tous les sous-traitants. Donc, ils ont fabriqué les adénovirus. Et après, ils les ont envoyés en Italie pour que l'Italie les mette en fiole. Et donc, ils en avaient 29 millions de doses. Mmh. Sauf qu'ils ne pouvaient pas les donner à l'Europe parce qu'il était prévu qu'il y en ait, d'après ce que j'ai lu, 12 millions pour l'Europe. Et le reste, ça devait partir par COVAX. Mais ils ne pouvaient pas les donner à l'Europe tant que l'EMA n'a pas certifié le labo des Pays-Bas, de Alix en question. Donc, en fait, ces doses, pour l'instant, tant que l'EMA n'a pas donné le feu vert sur la certification du labo du Pays-Bas, eh bien,
Elles sont bloquées, elles restent là-bas.
Elles sont bloquées, elles sont inexploitables. Alors, ils ont fait tout un pataquès en disant « Oui, on a 29 millions de doses, alors que AstraZeneca, oui, mais sauf que ces doses ne sont pas certifiées. Et si jamais, imagine qu'il y a des effets secondaires importants, tu ne peux pas les utiliser puisqu'il n'y a pas la
y a pas de certification de l'EMA.
Ouais. Donc là, c'est une de l'Express qui l'a sortie, là. Et elle me disait, elle est allée voir le labo Alix, mais elle ne comprend pas pourquoi ils ne leur ont pas donné les données de certification.
Et on ne sait pas du tout pourquoi. On ne sait pas du tout pourquoi. On ne sait pas du tout pourquoi ils n'ont pas donné la certification.
Non, non. Alors là, l'EMA dit, on va la donner incessamment sous peu, mais tant qu'ils ne l'ont pas donné, ben, ces doses sont inutilisables.
Ouais. Ben, c'est bien le bazar quand même, ces vaccins. Hein.
Non, mais en plus, on n'a même pas le contrat. Alors, je finis sur les contrats. Bon, on n'a toujours pas le contrat Pfizer et Moderna. Alors, il faut que tu regardes un truc vachement important parce qu'il y a une association belge qui a fait faire une étude juridique sur les clauses de responsabilité, de garantie et d'indemnisation.
D'accord.
Et c'est un cabinet d'avocats belge qui a regardé entre les États membres et la Commission, est-ce que ces clauses sont, si tu veux, valides ou pas. Et eux concluent que c'est des doses qui sont illicites.
D'accord.
Parce que ça exonère complètement les labos.
Les labos, exactement.
De la garantie, de la responsabilité. Et sur les indemnités, en fait, ça repose sur les États membres.
Mais la Commission avait d'ailleurs déclaré que la responsabilité, ce serait les États membres en août 2020.
Oui, eh ben, elle l'avait dit. Hein. D'après, ouais. Et eux, ils ont regardé ça de près et ils disent que c'est des clauses illicites.
Et donc, la seule possibilité, c'est la justice après.
Eh bien, la seule possibilité, c'est toi, si tu es patient. Avec un effet secondaire, tu peux toujours saisir la justice. Mais comment tu vas prouver le lien de causalité qu'il y a entre ton vaccin et ta maladie? Puisque les États membres, comme c'est eux qui achètent les vaccins, ils sont en plein conflit d'intérêts. Ils vont tout faire pour ne pas montrer le lien. Oui. Puisque c'est eux, si tu veux,
Qui seront tenus pour responsables. Voilà. Ils n'ont pas du tout envie que le lien de causalité soit établi.
Exactement.
Et c'est pour ça qu'on entend souvent que même s'il y a des effets secondaires, et en particulier, on est en train de voir les épisodes AstraZeneca, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les épisodes AstraZeneca, c'est quand même assez terrible. On voit qu'il y a des effets secondaires et à chaque fois, même si la proportion, c'est ce qu'on nous répond, elle est minime, à chaque fois, on nous répond il n'y a pas de lien de causalité, ce n'est pas prouvé avec le vaccin, n'ayez pas peur du vaccin. Et comment tu fais dans ces cas-là? Comment tu fais pour prouver le truc? Parce que de toute façon, comme tu le disais, les États membres ne veulent pas être tenus pour responsables, ils ne veulent pas être pénalisés là-dessus. Donc, comment tu le prouves? Il faut trouver un bon médecin qui te dise « Non, moi, je considère qu'il y a une causalité. »
Donc, c'est la merde. Bon, alors… Donc, il y a ça. Après, il y a l'histoire, comme tu disais, là, après, des certificats de vaccination.
Passeport sanitaire vert.
Ouais, les certificats verts numériques, là, digital. Ouais. Et puis après, il y a les mesures d'urgence, si tu veux. Donc, certificat vert, enfin, moi, personnellement, je suis opposée parce que je dis que c'est une fausse bonne solution. Parce que d'un point de vue scientifique, je n'ai pas d'études qui me prouvent que si on est vacciné, on est à 100% non contagieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre le virus. Ça, il n'y a pas d'études. Il y a des études qui montrent qu'à 75%, mais pas 100%. Donc là, il y a un risque. Après, je n'ai pas la garantie que les anticorps suite à la vaccination, combien de temps ils durent. Bon. Après, on a, si tu veux, des problèmes. Si tu as pris le COVID, après, c'est le problème des antigènes. Si tu as pris le COVID, ça marche pour le virus où tu as fabriqué, tes anticorps. Mais si tu as un variant qui circule, Tu n'es pas immunisé.
Est-ce que tu seras immunisé, ça, on ne le sait pas.
Ah ben ça, on sait que non, puisqu'il y a des gens qui ont pris le Covid.
D'accord.
Et qui ont refait un Covid avec le variant anglais.
D'accord.
Donc, ouais, donc... ça montre que tu n'es pas sécure, tu vois.
Et sur les tests PCR, sur les tests PCR, on sait très bien qu'il peut y avoir des porteurs sains. Non?
Oui. Alors, l'histoire du PCR, c'est que tu peux avoir des faux positifs. Et c'est-à-dire, et puis tu peux avoir des faux négatifs si tu es asymptomatique. Donc, bon, ça, tu vois, il n'y a pas une garantie à 100% des tests.
Alors, nous, c'est la commission Libé qui a récupéré ce dossier ouais. sur le certificat.
Dans quelle commission, toi ?
Libé.
Ah, Libé. Eh ben, Libé, ils ne sont pas d'accord, non ?
Non, on n'est pas d'accord parce que ça pose aussi des questions de données, de données personnelles médicales. On n'a pas d'assurance. Ils nous disent que ce sera soumis au RGPD, mais enfin bon, si le RGPD fonctionnait vraiment, ça se saurait. Ça pose des questions de droits fondamentaux de voyage dans l'espace de l'Union européenne, malgré tout, des discriminations. Ça nous pose la question des tests aussi qui sont plus ou moins payants vu dans quel État membre tu habites. Je pense à l'Italie particulièrement. J'ai une petite stagiaire qui nous expliquait qu'en Italie, si elle veut avoir un test rapidement, il faut qu'elle paye. Donc, ça pose la question, bah, alors dans ce cas-là, de la gratuité du test aussi.
Et
voilà, ça pose la question de la discrimination et des droits fondamentaux. Donc, nous, on va de toute façon avec mon bureau, on va essayer de déposer des amendements, mais en tout cas, on ouvrira aussi pour avoir des co-signatures qui peuvent nous aider, parce que je pense que ce certificat vert numérique, et en plus ce qui me dérange, c'est qu'ils veulent vraiment que ça aille très très vite. Ils nous ont dit clairement qu'il n'y aurait pas pendant les réunions de rapporteurs et de rapporteurs fictifs, il n'y aura pas de traduction, tout se fera en anglais, il n'y aura aucun interprète, et puis finalement que tout va extrêmement vite et que le débat, moi je pense que ça nécessite quand même un débat démocratique plus que ce qu'ils veulent bien nous laisser faire. Et sur le passeport vert,
Et sur le passeport vert,
évidemment, il y a des États membres qui poussent à ce certificat vert digital, parce que par exemple, on a la Grèce avec le tourisme, on a les pays du Sud avec le tourisme. Ça, c'est entendable. Mais est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Personnellement, j'en suis pas vraiment sûre.
Non, mais attends, ça te donne un sentiment de sécurité qui est pas effectif. Parce que c'est pas parce que tu es vacciné, c'est pas parce que tu as pris le Covid que tu n'es pas, pas contagieux.
Ouais.
Et en plus, on ne sait pas la durée de vie de tes anticorps. Donc,
il n'y a aucune étude qui est sortie là-dessus, sur la durée de vie des anticorps. Il n'y a rien, il n'y a pas d'étude, il n'y a rien.
Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Puis tu sais, comme à l'heure actuelle, tu as beaucoup de gens qui ont pris une dose, tu vois, plutôt que les deux doses. Donc, il y a moins d'anticorps formés. C'est à la deuxième dose que tu en formes beaucoup des anticorps. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques scientifiques. Il y a les problématiques que tu disais, là, de discrimination. Parce que regarde, des gens qui ne pourront pas se faire vacciner parce que c'est une femme enceinte, et sur les femmes enceintes, ce n'est pas clair. Tu es immunodéprimé, tu ne peux pas te faire vacciner, alors tu n'as droit à rien.
Et tu n'as pas le droit de voyager.
Mais tu n'as pas le droit de voyager, tu n'as pas le droit d'aller dans les spectacles, tu n'as pas le droit d'aller, tu vois.
Tu es considéré comme un citoyen de seconde zone.
Ouais. Et ça, je pense que là-dessus, vu les données scientifiques qu'on a, on peut attaquer à la Cour de justice européenne.
D'accord.
Parce que c'est, si tu veux, ce n'est pas tenable.
Et d'après toi, pourquoi ils ont voulu nous mettre un truc comme ça? Pour faire mine d'eux ou pourquoi ils nous
Mais
mettent un truc
les
comme
États.
Ça
Si tu veux, quand il y a eu la réunion de tous les États, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ont poussé en disant « Nous, on crève parce qu'on n'a plus de touristes. Donc, faites-nous un certificat vert. Comme ça permettra aux personnes âgées. » Parce que regarde, tous les jeunes, là, ben, ils n'ont pas la vaccination. Donc, ça permettra de faire repartir le tourisme.
Michel, les personnes âgées, à part les personnes âgées dans les EHPAD, j'en connais quand même encore certaines de 70 ans qui attendent toujours d'être vaccinées. Donc ça, c'est un faux débat, les personnes âgées. Il y en a qui ne sont pas, toujours pas vaccinées. Hein. On a vacciné des gens dans les EHPAD et les gens dans les EHPAD, ils ne voyagent pas, hein, si ce n'est de la chambre à la salle à manger. Hein. Non, mais soyons pragmatiques, quoi.
Ouais. Je pense que ça pose un gros problème d'accès. Alors, chez nous, là, il y a eu un gros débat hier au niveau du groupe. Et c'est marrant parce que, tu vois, les Espagnols, ils poussent, les Italiens, les Grecs, tout ça, ils sont complètement… Et les Allemands aussi, ils nous disent, mais ce n'est pas possible, ça donne quand même des garanties. Ben, j'ai dit non. Et puis après, la procédure d'urgence, mais tu te rends compte? Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat démocratique.
C'est ça, c'est ça.
C'est un pré-débat, ça, si on accepte le certificat vert.
Mais il est passé, la procédure d'urgence, elle est passée.
Eh oui.
Elle est passée 400, plus de 400 voix, je crois. Donc, il me semble qu'avec ce passeport sanitaire vert, les États membres vont quand même pouvoir décider de laisser rentrer quelqu'un ou pas sur leur territoire.
Ouais.
Parce qu'imaginons que la personne elle est vaccinée, mais qu'elle est vaccinée par Spoutnik, pas encore certifiée par l'EMA. Comment ça se passe pour celui qui va vouloir rentrer dans un État membre qui ne veut reconnaître que les vaccins certifiés par l'EMA? Ça va faire quand même de la discrimination, il ne pourra pas rentrer et pourtant il sera vacciné.
Il fallait harmoniser, parce qu'il ne voulait pas qu'un État… même l'Estonie, hein, parce qu'ils étaient déjà sur les passeports. Mais chaque État sera souverain. Mais il y aura un cadre commun. Mais la France, par exemple, si elle dit ben, les gens qui viennent de Hongrie, qui sont vaccinés avec Spoutnik ou Sinopharm, eh ben, ils ne rentrent pas.
Il y a ce risque aussi. Alors, enfin, c'est clairement un risque. Et c'est clairement un risque de discrimination.
Ouais, mais tu sais, le risque de discrimination, il est plus large que ça. Hein.
Oui.
Parce qu'à la limite, oui, là, c'est des vaccins non reconnus, mais tu vois, regarde, il y a plein de pays qui ne sont pas du tout vaccinés, alors ceux-là, ils sont bloqués dans leur pays.
Oui.
Et ça, c'est vraiment une inégalité.
Oui.
C'est pour ça que moi, tu vois, il faut faire attention quand on parle, parce que moi, je dis… que la Commission ait fait un achat groupé de vaccins, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu une inégalité dans les États membres, ça serait la loi de la jungle. T'es riche, t'as des vaccins, t'es pauvre, t'en as pas.
Bah, on l'a vu avec les respirateurs qui ont été piqués dans un pays alors qu'ils étaient pour un autre pays, pendant la pandémie.
Et les masques et tout ça. Bon, donc ça, c'était une bonne chose. Après, et là où j'en veux à la Commission, c'est que la Commission, après, a fonctionné sans nous. C'est-à-dire qu'elle négocie avec des négociateurs qu'on ne connaît pas, elle a des contrats qu'elle ne veut pas nous filer, ils donnent de l'argent qu'on vote nous, mais on ne sait pas combien ils donnent, et là, ça veut dire qu'elle a mis à l'écart complètement le Parlement européen. Et là, en disant passeport pour avoir une harmonisation, et on met le Parlement aussi de côté parce qu'on applique la procédure d'urgence, moi, je suis scandalisée par le fonctionnement, tu vois. C'est comme
tu avais déjà vu ça? Ça t'est déjà, c'était déjà arrivé au Parlement?
Non. Non.
Où on était, où les députés étaient si peu pris au sérieux, pas pris, voilà, considérés et même écoutés, quoi. Où les députés peuvent s'exprimer parce que, comme tu le dis, c'est nous qui votons les budgets. Alors, qui seront les responsables derrière? C'est nous parce que nous avons voté des budgets?
Ouais. Ah mais moi j'ai jamais vu ça, tu vois. Et là je trouve ça, ça te montre que tu vois en situation d'urgence comme ça, eh ben remarque on le voit en France aussi avec l'Assemblée nationale. Tu as été un député Godillot. Ouais. Et vis-à-vis des citoyens, eh ben moi je l'ai dit à Galina, j'ai dit écoutez moi, autant je soutiens la Commission, autant là vous me mettez en porte-à-faux parce que je peux pas soutenir ce fonctionnement. Donc, vous êtes en train de détruire l'Union européenne.
Et vous êtes en train de bafouer la démocratie? Vous êtes en train de bafouer la démocratie.
Vous négociez mal les contrats, vous faites tout porter sur les États membres et les citoyens et rien sur les labos. Non, mais attends, là.
Et qu'est-ce que tu penses alors de cette AstraZeneca là? Parce que c'est un véritable épisode, ce truc.
Ouais, d'abord, je pense que, un, on a mal négocié. Deux, c'est un voyou. Je pense que la direction d'AstraZeneca, c'est un voyou, Sorio, là,
Tu
Patrick
étais
Sorio.
là à l'audition des labos au Parlement?
Ouais,
Tu as pu y aller? Et
ouais.
alors, tu les as trouvés comment?
Ben, écoute, le pire, je crois que ça a été Pfizer et Sorio. Pfizer, j'aurais posé la question, pourquoi vous ne nous donnez pas les contrats? Elle a dit, oui, mais il y a des clauses de confidentialité, secret d'affaires et tout. Et Sorio, vraiment, ils se sont engagés sur. Ils avaient combien ils devaient filer 90 millions de doses au premier trimestre. On est à 30.
Mais quand ils te sortent le secret des affaires, tu as quand même une directive, secret des affaires, qui dit que pour la santé publique, il n'y a plus vraiment de secret des affaires normalement dans le cadre de la santé publique.
Eh oui, mais là, la commission, elle a accepté les contraintes que leur donnaient les labos.
Elle a plié, quoi.
Ouais. C'est pour ça que nous, on va normalement, on va à la Cour de justice européenne, là.
D'accord. Eh ben, je suis très intéressée de connaître et de donner un coup de main, en tout cas, s'il y a besoin, parce que je trouve que c'est, enfin, on dirait de l'amateurisme, quoi.
Ouais, mais je pense qu'ils ont mal négocié. Ils ont perdu du temps, au moins 4 semaines. Galina, elle vient de la commission Trade, donc elle était toute guillerette en disant, mais nous, on s'est négocié. Mais elle ne voyait pas la force des labos, hein. Ils ont plié sur la force des labos, hein.
Et le pire, c'est que tu ne pourras pas les
L'affaire, c'est grave,
considérer
hein.
comme. Bah oui, mais et le pire, c'est que si t'arrives quoi que ce soit, tu ne pourras pas les tenir pour responsables.
Oh, ça va être très compliqué, ouais.
On est quand
Ouais.
même en train de parler de la vie des gens. On n'est pas en train de parler du paquet de sucre que tu vas t'acheter dans un supermarché, quoi.
Oui, mais alors, tu vois, c'est comme AstraZeneca. Quand il y a eu les cas de thrombose, moi, je me suis engueulée, moi, avec Jadot. Parce que Jadot, il dit, ah oui, mais les Allemands ont suspendu, c'est un scandale. Le bénéfice-risque, il est supérieur si les gens se font vacciner. Mais je lui ai dit, mais oh. Il faut savoir pourquoi il y a des thromboses, pourquoi il y a moins de plaquettes quand on te vaccine. Et c'est quand même des femmes qui ont moins de 50 ans, entre 20 et 50 ans. Il y a eu 6 femmes en Allemagne, dont 2 sont mortes. Un mec a fait une hémorragie cérébrale. Il y a eu 2 morts au Danemark, pareil en Norvège. Donc il est important, si tu es une femme, tu n'as pas envie de mourir pour te faire vacciner. Il faut comprendre le pourquoi. Et que le fait de suspendre 4 jours, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, c'est indispensable parce qu'après, qu'a fait la HAS,
Elle a
la Haute
dit
Autorité en France?
qu'il fallait le donner pour les personnes de plus de 55 ans.
Exactement. Donc, tu vois, ça
Alors
conforte, moi, ce que je disais.
qu'au départ, Michel, celui-là était dédié aux soignants, quel que soit leur âge.
Exactement.
Je me demande combien de soignants ont été vaccinés à l'AstraZeneca. Souviens-toi, les premiers, on a eu des articles dans les journaux où il manquait 30% du personnel qui venait de se faire vacciner par AstraZeneca et qui allait vraiment pas bien du tout. Je suis pas en train d'essayer de faire peur à qui que ce soit, mais à partir du moment où il y a quelque chose, je suis d'accord avec toi. On arrête, on cherche, on analyse et on revoit la copie, parce que sinon on ne retient pas d'histoire de l'histoire, en fait.
Oui, alors après, on a un autre problème. Tu vois, juste avant, il y avait une audition de l'EMA. L'EMA dit, effectivement, bon, il y a des problèmes de thrombose, mais on n'a pas tout à fait le lien. Mais quand même, on va le mettre dans la notice. Donc, il n'y a pas de lien, mais on va le mettre quand même dans la notice d'AstraZeneca. Et on est en train d'investiguer pour savoir pourquoi ces gens-là provoquent des thrombose ou des thrombocytopénies, on appelle ça, tu sais, la diminution des plaquettes. Bon. Donc, quelque part, il montre qu'il peut y avoir un lien. Tu es à l'heure actuelle, tu vois, moi, j'ai eu des problèmes avec mes parents qui ont 90 ans. Bon, moi, je ne suis pas une pro-vaccin à 100%. Bon, j'ai dit, il faut qu'ils se fassent vacciner. Parce que le bénéfice-risque pour eux, il est supérieur, même s'il y a des risques liés à la vaccination, d'être vaccinés. Parce que s'ils prennent le Covid, ils y restent. Tu comprends? Mais tu es un jeune de 20 ans. La balance bénéfice-risque, eh ben, elle n'est pas évidente, puisque eux, s'ils prennent le Covid, ils s'en sortent avec juste en perdant l'odorat et le goût. Et ils n'ont rien du tout. Donc, tu vois bien que la balance bénéfice-risque, elle est en fonction des personnes. Moi, j'ai une autre fille qui est très allergique. Eh bien, elle est très allergique, elle ne va pas se faire vacciner avec le Pfizer ou avec AstraZeneca. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Ah, je
quand
comprends
ils me
bien.
disent ça, mais je leur dis, mais moi, je préfère que mes filles, elles prennent le Covid. Hein?
Oui.
Et elles ont pris le Covid, elles ont pris le Covid et rien. Moi, si je prends le Covid, je pense que j'aurai plus d'effet, mais elles que elles.
Ouais.
Tu vois?
Et
Donc, c'est ressent.
comment toi tu arrives à expliquer ce maelstrom de politique vraiment d'aucune anticipation, en fait, on a l'impression. Parce que là, est-ce qu'ils vont encore fermer les écoles? On fait du confinement par-ci, par-là. Comment t'expliques, toi, que. Parce que c'est un peu partout pareil, j'ai l'impression, en Europe. Personne n'a une politique vraiment. Très d'anticipation dans le Covid. Là, on a eu l'impression qu'ils découvraient les variants. Non, mais sincèrement, un virus, on sait très bien qu'il va y avoir des variants. C'est quelque chose qui est vivant, me semble-t-il. Okay, ça va forcément bouger. Pourquoi sinon on ferait un vaccin contre la grippe tous les ans? Pourquoi? Donc, comment t'expliques toi-même que l'Union européenne, elle n'a pas su. À part sur la commande des vaccins pour qu'ils évitent de s'écharper entre eux, même s'ils l'ont quand même des fois un peu fait, parce que je crois que c'est le Premier ministre autrichien Kurz qui a tapé du poing sur la table hier, pendant le Conseil. Comment t'expliques que finalement nos gouvernants n'arrivent pas à avoir des politiques d'anticipation? Parce qu'ils n'écoutent peut-être pas assez les médecins? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'être élus? Pourquoi?
Moi, je pense que tu sais, écoute, imagine tes ministres de la Santé. C'est un bordel. Tu sais, moi, je crois que. Non, mais attends, tu sais, c'est pas simple. Hein. Là où on peut attaquer, nous, moi, je pense qu'on peut attaquer sur les lits de réanimation.
Oui,
Parce que
ça c'est de
depuis
la
10
gabegie,
ans,
c'est
on
bien
en a
foutu de la gueule du
supprimé
monde.
ouais, 60 000. Bon. Donc là, et ça, on l'a vu entre la France et l'Allemagne. À comparaison, il y en avait, je crois, c'est 3 fois plus en Allemagne qu'en France. Donc, quand tu as une crise, tu peux mieux l'anticiper parce que tu as quand même des lits de réanimation. Bon. Après, savoir est-ce que les gamins sont plus contagieux ou pas, tout ça, c'est des études qui peuvent le montrer. Parce que c'est quand même un virus un peu diabolique, hein. Pourquoi il y a des gens qui font des effets inflammatoires avec l'orage cytokinique qui est dingue et pourquoi tu as d'autres qui ne le font pas? Donc tu vois bien que
Est-ce
là,
qu'il y aurait une question de
je pense
génétique? Est-ce que ce serait une question de génétique?
il y en a certains qui le disent. Et puis il y a aussi des facteurs de risque comme tu vois le diabète, l'obésité. Quand tu voyais les premiers, c'était un, des gens très âgés et souvent des gens obèses. Et ça, il semble que ça soit vraiment des facteurs de risque. Alors, les personnes âgées, parce que le système immunitaire est très déclinant, tu sais, moi, ça me fait rire, mais le virus sur la grippe, il est efficace à 30% chez les personnes âgées. Hein. Donc, c'est que dalle.
D'accord,
Hein.
d'accord.
Bon, et maintenant, tout le monde le reconnaît. Donc, eux, ils sont déficients. Et en plus, c'est les facteurs de risque, c'est diabète, obésité, des trucs comme ça. Bon, donc ça, on ne pouvait pas trop le savoir au début. Donc, c'est quand
Mais
même pas facile à gérer. C'est pour ça que
j'ai lu aussi une
l'autre
étude
fois.
où c'est plus les hommes que les femmes qui sont touchés par des formes graves.
Oui, mais maintenant, c'est les femmes qui viennent, hein, je te signale.
Ah ouais?
Avec le variant anglais, c'est les femmes qui viennent.
Eh bien.
Non, mais l'autre fois, j'avais fait une émission un peu avec des complotistes, tu vois. J'étais un peu gênée par leur discours parce qu'ils disaient, oui, mais le confinement, ça sert à rien. Les masques, ça sert à rien. Ta, 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 ta. Moi, je ne vais pas trop là-dedans, tu vois. Moi, j'ai dit,
Pareil.
écoutez, c'est compliqué quand même, cette gestion de la crise. Que le confinement, le premier confinement, si tu veux, ça a permis de diminuer la propagation du virus, mais ça n'a pas empêché la pandémie, parce que dès que tu es sorti, tu vois, et que tu n'as pas la vaccination pour arrêter, si tu veux, l'épidémie. Eh bien, c'est reparti comme en 14.
Mais je pense que il n'y a pas eu vraiment de plan de déconfinement anticipé, en fait. Il fallait
Ouais.
confiner les gens, parce que, comme tu dis, pour arrêter la progression du virus, et ça a quand même fonctionné, faut pas se leurrer, ça fonctionne. Pour autant, il n'y a pas eu de plan de déconfinement. Ça n'a pas été fait, comme tu le dis. On n'avait pas les vaccins, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela. Et la grande, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de transparence non plus de nos gouvernants, parce que toutes ces injonctions contradictoires sur le masque, sur ceci, cela, les gens ont été perdus. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aussi, il y a tous ces réseaux un peu complotistes qui se sont mis en. Qui se sont mis en marche, entre guillemets. C'est parce que les gens, ils n'ont pas compris à un moment donné. On leur dit, vous n'avez pas besoin de masque, mais puis après, vous avez besoin d'un masque. Alors que s'ils avaient été honnêtes et s'ils avaient dit, mais écoutez, messieurs, dames, on n'a pas de masque à vous fournir, mais essayez de vous fournir avec des masques parce que c'est contagieux et il faut vous protéger. Et ce n'est pas qu'une grippette, c'est un virus qui est quand même assez diabolique, comme tu le dis. Peut-être que les gens, ils ne sont pas bêtes, ils auraient compris, quoi.
Non,
Ils
mais je suis
auraient
d'accord
compris.
avec toi. L'histoire
Et
des masques, c'est un mensonge d'État. L'histoire des masques, c'est un mensonge d'État. Ça me fait penser à Tchernobyl, moi. Tu vois,
Le
on te
nuage
dit
passera
le
pas à
masque.
la frontière.
Ouais. Le masque, ça sert à rien. Mais arrête. Regarde toutes les infirmières, les médecins. Quand il y a une maladie contagieuse, ils mettent des masques.
Ah ben nous, dans l'EHPAD, quand il y avait la grippe ou quand il y avait une gastro, on mettait un masque et des gants, hein.
Ben exactement. Donc, tu vois, ça, bon. Alors après qu'ils disent, ben écoutez, on n'en a pas assez de masques, parce que là aussi, il y a eu tout un pataquès, il n'y a pas assez de masques, fabriquer des masques, ou on va réquisitionner des entreprises textiles pour fabriquer des masques, voilà, tu vois, ça, on s'est planté là-dessus.
Mais c'est comme
Après, on s'est
l'oxygène
planté
avec
sur...
Luxfer, hein. Luxfer, ils auraient pu réquisitionner Luxfer pour l'oxygène aussi, hein.
Exactement. Après, sur les tests, c'est pareil. On aurait pu demander aux vétos. Les vétos, ils avaient les amorces, mais on n'a jamais voulu, la HAS a jamais voulu confier aux vétos le fait de développer des diagnostics.
Moi, je pensais, tu vois,
Donc,
je pensais même que les vaccins arriveraient des vétos. Je pensais même que les vaccins arriveraient des vétos parce qu'ils connaissent les coronavirus.
ouais. Ouais. Mais enfin, tu vois, c'est tout ça. Alors, là-dessus, on peut attaquer. Mais, alors, on peut attaquer aussi les confinements stricts parce que. Il y a une étude qui a montré que quand tu es dans les confinements stricts, tu as beaucoup de morts qui sont dues au fait de ne pas prendre en charge les gens qui ont des cancers, des AVC, tu vois, des trucs graves. Puisque là, tu vois, il y avait tellement les lits de réanimation étaient pris que tous ces gens-là, ils ne venaient même plus à l'hôpital. Donc, en fait, tu peux avoir des conséquences assez fortes. C'est pour ça que Macron, là, il fait plus le confinement strict.
Et de toute façon, la maladie Covid, elle est en train elle est présente sur toutes les chaînes. Mais tu as raison de le rappeler aussi, c'est vrai. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est aussi toutes les autres pathologies qui sont mises sur le côté parce qu'on ne prend plus les gens non plus. Ils ont commencé à dire clairement qu'ils allaient faire du tri à l'hôpital. Et tous
Ouais.
les cancers et tout. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, il t'arrive un accident de voiture, un accident grave. Je ne sais même
Ouais.
pas si on va te trouver un lit en réa, quoi. Enfin bon,
Ouais.
y a toutes les pathologies autres que le Covid qui ne sont pas prises en charge. Et nous, dans les EHPAD, on avait fait un référé liberté au niveau du Conseil d'État et on avait dit, mais attention, là, les personnes âgées, avec le fait qu'ils sont enfermés dans les EHPAD, ils ne peuvent plus avoir accès à d'autres médecins spécialistes sur d'autres pathologies. Mais on a quand même perdu le Conseil d'État, on a quand même été débouté de tout. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas
Ouais.
assez, qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ont des pathologies ou des pathologies qui auraient dû être vues, qui auraient dû être constatées et qui prennent un retard terrible et qui vont avoir un effet sur leur santé qui ne va pas être chouette, quoi.
Donc tu vois, moi je pense qu'on peut, c'est comme la commission. On peut dire point positif, achat groupé, point négatif, l'opacité. Point négatif, les fast tracks, c'est-à-dire vous faites des procédures accélérées sans que les parlementaires soient impliqués. Et puis après, l'EMA, qui n'est pas nickel, parce que tu vois, l'EMA, que ce soit sur AstraZeneca, ils ne sont pas restrictifs. Et c'est les agences sanitaires nationales qui sont plus restrictives. Donc moi, l'EMA, bon, je trouve que c'est bien qu'ils regardent les études. Mais tu sais, je ne fais pas une confiance absolue sur les effets secondaires, moi. Parce que là, on fait de la politique, hein, on fait pas de. Et puis après, il y a tout le problème du positionnement de la Commission sur les accords de l'OMC. Puisque tu sais, on demande des licences obligatoires et que la Commission, pour l'instant, elle dit non, non et non. Alors, ils font COVAX, mais COVAX, c'est un échec. Tu n'auras jamais des milliards d'euros pour acheter des vaccins. pour distribuer dans les pays en voie de développement. Il faut donner la possibilité. Alors, on me dit, oui, mais il y a des goulets d'étranglement parce que, ils n'auront pas les substances actives. Alors, moi, je leur ai dit, j'attends de voir parce que, tu vois, l'Inde, avec le gros institut, là, je ne sais plus, c'est Serum Institut, ils font des vaccins pour le monde entier, eh bien, qu'ils fassent des vaccins pour justement l'Afrique, l'Asie, etc. Mais
De toute
tout ça,
façon,
il faut faire sauter
l'EMA, il
la
s'était planté
propriété
avec le
intellectuelle.
remdesivir. L'EMA, il s'était planté avec le remdesivir.
Complètement, complètement. Moi, j'avais
Donc, on peut.
demandé le remboursement.
Ah oui?
J'avais dit à l'EMA, vous êtes planté, je demande à ce que Gilead rembourse l'argent que leur a donné l'Europe.
Et alors, t'as réussi?
Ouais, ils m'ont dit, mais quand on l'a su, on n'avait pas l'étude de l'OMS. Ben, dis donc. L'EMA, plus ils autorisent, plus ils ont de l'argent. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu veux?
Ouais.
Non,
Ben en
mais
tout
on est un peu.
cas, ben
Bon,
j'ai
écoute.
l'impression qu'on voit pas beaucoup d'issues à tout ça, et c'est ça qui est triste en fait.
Ben oui, tu sais, c'est pas. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est maintenant et la suite. Enfin, le passé déjà. Parce que, tu vois, ils ont surfé sur la peur. Ils ont tétanisé les gens. En France, quand tu voyais Jérôme Salomon qui te disait le nombre de morts tous les jours, là, à la télé, il te donne tous les jours les gens en réanimation, gna gna gna. Les gens, ça les panique. Il y a des
Et
gens
puis
qui ne sortent plus de chez eux.
quand même, ils culpabilisent beaucoup certaines personnes hein, aussi. Ils culpabilisent beaucoup les gens. C'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Ouais, d'accord, il y a peut-être des gens qui prennent pas beaucoup, qui font pas très attention, mais il y a quand même, je pense, des gens qui font extrêmement attention. Et il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, j'avais ma collègue qui me disait, tu vois, dimanche, on est allé vraiment faire un petit tour sur les quais à Paris. On a vu l'heure, il était 17h45, on s'est dit, et les flics commençaient à tourner, on s'est dit, mais mon Dieu, vite, faut qu'on rentre. Et les gens, limite, sont, mais on est en train de marcher dehors et ça devient quelque chose d'illégal, quoi. C'est, les gens, ils ont mis les gens dans une forme de peur constante.
De soumission. Tu mets
Oui.
les gens dans la soumission.
C'est
Eh
ça.
bien, tu vois, au niveau des parlementaires, pour que les gens aient voté une procédure d'urgence, ben, tu vois, c'est exactement l'exemple typique où il faut aller vite et il n'y a même plus de débat, il n'y a même plus de discussion, il y a. Moi, je trouve ça, voilà, ça c'est très alarmant.
Ouais.
Mais depuis le terrorisme, tu as ça, hein? Ça a
Parce que tu
commencé
sais,
par le terrorisme.
ben justement, tu sais, quand on reparle du certificat vert, il sera enlevé dès que l'OMS dira qu'on n'est plus en état d'urgence sanitaire. Mais il n'y a pas de temporalité. Quand est-ce qu'elle va le décréter? Quand est-ce que ça va être fini? Qui peut dire aujourd'hui quand est-ce que la pandémie sera terminée? Quand est-ce qu'elle va se terminer? Et Breton qui dit qu'au 14 juillet, on sera tous vaccinés. Ah bon?
Je
Non,
trompe
non,
pas.
non, c'est pas on sera tous vaccinés, il y aura une immunité collective, je sais pas. Enfin, il sort un truc comme ça, je sais pas. Il se rend pas compte qu'aujourd'hui, les gens, ils attendent des dates, ils en peuvent plus, quoi. On peut pas s'engager sur des dates, on leur en a trop dit, des dates. Regarde les restaurateurs, on leur a dit, vous allez ouvrir en janvier, puis après, vous allez rouvrir le 20 avril. Et puis là, ils ont toujours pas rouvert. Les gens, c'est ça surtout, je pense aussi, qu'ils font, qui pètent les plombs. C'est qu'ils ne voient pas d'issue et il n'y a pas de date où ils se disent, bon, ben c'est bon, on tient encore un peu et là, ça va pouvoir réouvrir et on va pouvoir retrouver une vie à peu près normale, quoi.
Non, le seul truc espoir qu'ont les gens maintenant, c'est la vaccination. Tu vois, ils pensent que si 70% de gens vont être vaccinés, ça va arrêter le virus. Moi, je pense que ça va arrêter le virus, sauf que le problème, c'est les variants. Parce que tu vois, AstraZeneca, c'est pas terrible quand même sur le variant d'Afrique du Sud et du
C'était pas
Brésil.
20 ou 22%, un truc comme ça, AstraZeneca, sur le variant d'Afrique du Sud?
Ben, c'est ce qu'avaient dit les gens d'Afrique du Sud. Alors, ça n'a pas été corroboré là encore. Mais si tu as un autre variant, regarde le variant breton là qui est sorti. Bon, s'il est pas contagieux, c'est pas grave, ça va s'arrêter. Mais s'il est très contagieux, eh ben, il n'y a même pas de test pour le détecter. Et
Ouais.
puis tes vaccins, sauf ça enrichit qui? À qui profite le crime? Chaque fois, il faut se poser la question. Ben, c'est au labo.
Et tu as vu maintenant qu'il y a même un variant belge.
Oui, bah, c'est possible. Hein.
Ils ont annoncé ça cette semaine, il y a un variant belge.
Donc, tu vois, c'est ça, la crainte, c'est ça.
De toute façon, il y a toujours, des profiteurs, il y a toujours des profiteurs de crise, hein, Michel. Hein.
Oui, oui, ça, c'est sûr.
Sur le positionnement des vaccins, ben, j'aimerais bien qu'on parle évidemment de la levée des brevets, mais ça, tout le monde en parle. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi plus des responsabilités et des éventuels effets. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on ne parle pas assez aussi des gens qui sont laissés au bord de la route, comme tu le disais tout à l'heure, avec les pathologies. Et puis, ben, en tout cas, au niveau du Parlement européen, on essaye de le rabâcher, quoi. Mais regarde, sur les contrats, la commission IMCO, marché intérieur, n'a même pas été… on ne nous a rien demandé, quoi. On ne faisait même pas partie. J'ai demandé à aller voir les contrats. On m'a dit non, madame, vous n'êtes pas prioritaire vu la commission, dans, vu les commissions dans lesquelles vous êtes. C'est pourtant du marché intérieur, ça. On m'a dit non. On m'a dit non, madame.
Ah ouais.
Oui, c'était réservé à Envie, Itré et je ne sais plus laquelle, mais moi, quand j'ai demandé en faisant partie d'IMCO, on m'a dit non, madame, vous n'êtes pas prioritaire, vous ne faites pas partie de la bonne commission. Alors, on va nous demander des trucs en IMCO qui sont complètement à l'ouest, et sur des choses comme ça de vaccins, on nous répond bah non, vous n'êtes pas prioritaire.
D'accord.
Va comprendre.
Bon, mais écoute, moi, je pense qu'il faut axer sur la transparence, le débat, la protection des données personnelles, tu vois, des choses comme ça, parce que c'est notre boulot, ça.
La non-discrimination sur le fait de pouvoir te déplacer dans l'espace Schengen, normalement. Hein.
Alors, tu vois, moi, j'avais une idée. Je ne sais pas, toi, comment tu l'as… Tu vois, moi, je ne suis pas d'accord avec le certificat vert parce que, tu vois, ça fait du tracing.
Oui.
Mais alors, je me disais, mettons de l'argent dans les tests.
Oui.
Tu vois, imagine que tu as des tests comme l'histoire quand tu prends la température.
Oui.
Tu veux aller à un spectacle, tu as un test qui dure 30 secondes, une minute, et on teste les gens. Si ton test est négatif, alors il faut qu'il soit plus fiable que ce qu'il y a à l'heure actuelle, mais imagine, tu fais un test. Un, tu es soit bon, soit pas bon, mais tu vois, tu n'as plus de discrimination.
Exactement.
Les gens peuvent se déplacer où ils veulent, mais il faut qu'ils garantissent le fait qu'ils ne soient pas porteurs du virus.
Mais exactement. Et je trouve
que ça permet de ne pas avoir le problème des protections des données personnelles. C'est, tu vois, ton test, tu le fais. Ça permet de ne pas être discriminatoire, mais par contre, il faut que ça soit plus fiable que ce que c'est à l'heure actuelle. Je préfère qu'on investisse dans les tests plutôt que ces certificats, tu vois.
Oui, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, j'étais même contre Stop Covid, moi, hein, à cause du tracing.
Ah oui, mais moi, je ne l'ai pas mis. Hein. D'ailleurs, les Français, tu sais, ils n'ont pas suivi. Hein.
Non, ça n'a pas été une réussite, leur truc. Hein.
Moi, j'adore les Français pour ça. Ils sont rebelles. Tu sais, ils ont horreur qu'on les trace.
Des Gaulois réfractaires.